À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Niamey, bienvenue à notre journal. On commence par les élections en Afrique. Au Niger, les résultats de la présidentielle tombent au compte-gouttes. L'opposition nigérienne a déjà annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats du scrutin qu'elle qualifie de fantaisiste. Plus de précisions avec notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pinault.
Oui, c'est un processus lent et difficile. Un peu plus de 15% des résultats connus ce matin sur la présidentielle. 50 communes sur les 308 de cette élection présidentielle. Le taux de participation s'établit à 67,13%. Ce sont les chiffres provisoires de la Commission électorale nationale indépendante qui publie ces chiffres au compte-goutte. Évidemment, cela alimente la suspicion. Ce matin, la tendance est la même. Le président sortant Mahamadou Issoufou est en tête avec 33,78% des suffrages. Deuxième, Ama Amadou, 26,38% des voix. Troisième position pour Seyni Oumarou, le président du MNSD. Nassara, la tendance est la même depuis 24 heures. Ce sont ces trois candidats qui arrivent sur le podium de cette élection. Mais évidemment, il reste encore beaucoup de résultats à parvenir. Espérons pour les Nigériens qui attendent évidemment la publication des résultats provisoires globaux que cette journée de mercredi sera la bonne. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Élection aux Comores maintenant. Le vice-président du pays et candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ali Soliï, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche avec 17,61% des voix, selon des résultats provisoires annoncés dans la nuit de mardi à mercredi par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Monsieur Soliï devance Mouini Baraka, gouverneur de l'île de la Grande Comore, qui obtient 15,09% des voix, et le colonel Azali Assou qui collecte 14,96% des suffrages. Ces trois candidats sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle le 10 avril. En RDC, Human Rights Watch demande au gouvernement congolais de mettre fin à la répression visant des opposants politiques présumés. L'Organisation américaine de défense des droits de l'homme dénonce entre autres les arrestations arbitraires dont ont été l'objet 9 jeunes en marge de la journée ville morte organisée le 16 février par les opposants à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Les précisions d'Eddie Sango.
Manifester pacifiquement n'est pas un crime et les autorités congolaises devraient immédiatement libérer toutes les personnes injustement arrêtées sous des accusations fallacieuses, indique Human Rights Watch dans un communiqué publié hier. L'Organisation de défense des droits de l'homme fustige l'arrestation à Goma et à Kinshasa de 8 jeunes membres du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, basé à Goma. Pour Human Rights Watch, les chefs d'accusation portés à l'encontre de ce jeune semblent être politiquement motivés. L'ONG les qualifie de fabriqués de toutes pièces. Kinshasa accuse pour sa part l'ONG américaine d'immixtion dans un dossier judiciaire, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende à l'AFP. L'appel lancé par des opposants pour une ville morte le 16 février avait été largement suivi à Kinshasa et partiellement dans d'autres provinces. L'opposition et les activistes mettent la pression sur le président Joseph Kabila afin qu'il respecte les délais constitutionnels en organisant les élections avant novembre sans s'y représenter pour un troisième mandat.
Crise au Burundi, l'opposition burundaise en exil a dénoncé mardi une fausse ouverture après l'annonce par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon que le président burundais Pierre Nkurunziza avait accédé à sa demande d'engager un dialogue inclusif avec les opposants politiques. Pour des précisions sur cette controverse, Timothée Donangmaï a joint à Dar es Salaam en Tanzanie Hussein Rajabu, leader d'une faction du CNDD-FDD, le parti au pouvoir à Bujumbura.
Cette suggestion de Ban Ki-moon n'est pas la première. C'est une suggestion qui succède aux autres provenant de l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres coins du monde. Donc pour nous, c'est une très bonne suggestion. Et malheureusement, c'est lui qui devrait faire un bon geste pour que cette suggestion puisse apporter des fruits. C'est bel et bien Pierre Nkurunziza. Et malheureusement pour lui, chaque fois, tantôt il accepte, tantôt il renie à ce qu'il avait déjà accepté. Donc ce n'est pas pour la première fois, seulement cette fois-ci, il y a une très grande intensité de pression et nous pensons que Nkurunziza va se courber devant cette situation et surtout devant d'autres pressions qui vont suivre.
Hussein Rajabu, leader d'une faction du CNDD-FDD, joint à Dar es Salaam en Tanzanie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé hier dans la capitale N'Djamena pour empêcher une marche pacifique de l'opposition contre le régime du président Idriss Déby Itno. La marche a été annulée de fait, vu que son parcours était complètement quadrillé, a déclaré à VOA Afrique Saleh Kebzabo, chef de l'opposition et candidat à la présidentielle du 10 avril. Nathalie Barge l'a joint à N'Djamena.
Toute manifestation de ce genre, quand il s'agit d'une marche, elle part toujours d'un endroit précis pour prendre fin à un endroit précis. Et là, en l'occurrence, les deux lieux étaient massivement occupés par des centaines d'agents de sécurité. Nous n'avons donc pas accès à notre lieu de départ. Et tous les axes y menant aussi étaient massivement occupés. Tous les carrefours et ronds-points du quartier ont été occupés. Ils ont fait une démonstration de force qui prouve leur faiblesse, qui prouve bien que le régime a peur de tout ce qu'on peut faire. Et je crois qu'on n'avait même pas besoin d'annuler. La manifestation s'est annulée d'elle-même. Aussi, je voudrais dire que je me réjouis de ce que nous avons ainsi préservé le sang des Tchadiens. Parce que les forces qui étaient peu positionnées, la gendarmerie et la police étaient visibles. Mais elles n'étaient pas les vraies forces de répression. Les vraies forces de répression étaient derrière, c'est la garde nomade, qui attendait donc des instructions pour enclencher le mouvement de répression sauvage et barbare. Ça prouve que l'opposition a fait preuve d'intelligence et de responsabilité. Parce que dans le deuxième volet des conséquences qu'il y avait, c'est qu'ils voulaient nous les faire amputer éventuellement. Ils voulaient nous faire amputer la responsabilité des manifestations et des dégâts qui auraient eu lieu. Et donc, vous comprenez ce que cela veut dire, surtout pour tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. Et là aussi, nous avons su déjouer ce piège.
Cependant, la plupart des leaders de l'opposition vous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec votre décision d'annuler cette manifestation.
La petite personne de Kebzabo n'est pas assez grande pour imposer une décision tout seul. Nous nous sommes réunis chez moi depuis 6 heures du matin, on était plus de 30 chefs de parti. Nous avons passé toute la situation en revue. Que dans une situation comme celle-là, qui est déjà plus prompt à aller dans une direction que dans une autre, qui est pas une entente totale, est tout à fait normal. C'est inscrit dans l'ordre des choses. Il y a un jeune chef de parti, par exemple, qui m'a dit à la fin, bon, écoutez-moi, je vous comprends, mais mon parti organisera une marche. Je lui ai dit bien. Je vous soutiendrai.
Que pensez-vous du fait que les autorités aient interdit justement cette manifestation pacifique que vous avez le droit, hein, selon votre constitution, d'organiser?
Regardez l'intitulé même de l'arrêté, pour faire rire un peu les gens. Arrêté portant interdiction d'une marche pacifique. Ça en soi déjà, c'est assez amusant. Mais on est dans un domaine où il ne faut pas en rire. Ce que je peux vous dire, madame, c'est que ce régime est à bout de souffle. Nous allons à des élections, mais on va à des élections dont on sait ici qu'on a vu tous les trucs qu'ils sont en train de faire. Et nous, nous sommes déterminés. Nous avons été jusqu'à les tourner en dérision en disant que même sans carte électorale, on ira aux élections.
Saleh Kebzabo, chef de l'opposition tchadienne et candidat à la présidentielle du 10 avril. En Afrique du Sud, la chambre basse du Parlement a adopté un projet de loi qui ressemble à un premier pas vers la réforme agraire pour redresser les disparités raciales dans l'appropriation des terres. Le point avec Eric Manirakiza.
La question de la terre reste sensible en Afrique du Sud, 22 ans après l'apartheid. La chambre basse du Parlement a adopté hier un projet de loi permettant au gouvernement d'acheter la terre en fixant son prix et au besoin en expropriant dans l'intérêt public. Pour devenir une loi, ce projet doit d'abord être approuvé par le Sénat, puis promulgué par le président Jacob Zuma. Il s'approche d'une réforme agraire, mais se différencie des expropriations forcées comme au Zimbabwe. Les partis d'opposition et les gros fermiers blancs l'ont dénoncé, mais pour l'ANC au pouvoir, c'est le moyen de rendre équitable l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Depuis 1994, près de 8 millions d'hectares ont été transférés à des fermiers noirs, ce qui représente à peine 8 à 10% des terres détenues par des blancs. La plupart des fermes subissent la pire des sécheresses jamais vécues depuis au moins un siècle.
Et pour terminer l'actualité aux États-Unis, primaire présidentielle américaine, le milliardaire américain Donald Trump a conforté son avance dans la course à l'investiture républicaine mardi avec une large victoire dans le Nevada face à ses rivaux Marco Rubio et Ted Cruz. Sa troisième victoire d'affilée après son succès dans le New Hampshire et en Caroline du Sud. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.